Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un ouvrage paru tout à la fin du mois d'août 2020, bien sûr, qui s'appelle Blackout. Donc c'est une parution que vous avez eu l'occasion de lire. Vous nous expliquerez dans quelles circonstances un petit peu particulières, mais un ouvrage qui est tout récent, avec au scénario une scénariste, Lo Huifang, et au dessin Hugues Micol. C'est une parution Futuropolis qui nous emmène vers Hollywood. Alors Thierry, juste pour revenir à ces circonstances particulières que nous vivons encore aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez appris, découvert dans la lecture de cet ouvrage, avant qu'on en entre en fait dans le détail du sujet ?
Il est vrai que cet ouvrage coche toutes les cases pour moi, l'histoire, le cinéma, la romance, la face cachée des choses. C'est un ouvrage que j'ai découvert dans des conditions, est-ce que je peux dire privilégiées ? Je ne sais pas.
Ça dépend sur quel plan.
Les éditeurs nous envoient assez régulièrement une partie de leur production sous format PDF, fichier informatique, en avant-première avec pour mission de ne rien divulguer auparavant. Donc c'est un ouvrage que j'ai lu sous ce format sur mon ordinateur pendant la période de confinement. Et c'est vrai que c'était paradoxalement un test. J'ai lu bien d'autres choses, mission étant aussi de rédiger des notices pour ces ouvrages à paraître, pour créer une atmosphère d'attente et puis pour garder un lien avec nos clients BD Fugue, perpétuer l'esprit de la nouveauté BD et puis donner envie de nous retrouver dès la sortie du confinement. C'était un test dans le sens où c'est quand même pas très agréable. Enfin, moi, je ne prends aucun plaisir à lire sous ce format-là.
Ah, je croyais que vous ne lisiez plus que sur tablette maintenant.
Je crois que j'ai dépassé l'âge pour avec plaisir.
En plus de la bande dessinée, franchement, lire de la bande dessinée en dehors du papier, moi je trouve ça très compliqué.
Après, comme je le disais, c'est à valeur de test, parce que si vous arrivez à trouver l'album intéressant malgré cela, c'est qu'il contient quelque chose qui mérite qu'on en parle, qu'on en débatte et qu'on en parle sur les antennes de Radio Semnoz.
Et là donc c'est le cas. C'est une histoire qui se déroule dans les années 30-50, au moment de la flamboyance d'Hollywood.
Oui, alors c'est un livre pour lequel je me suis posé la même question pour un livre plus récent sur, on reste dans le cinéma, sur Edouard Luntz. La biographie d'un réalisateur passé sous les écrans radars, totalement disparu. Je pensais qu'Edouard Luntz était une invention, jusqu'à ce que je vois un de ses films, un film avec Maurice René. Je l'ai vu sur une chaîne du câble que je ne nommerai pas pour faire de la publicité, ou alors donnez-moi de l'argent.
Directement appelé Thierry par conséquent.
Mais là, il s'agit bien d'une fiction. On est toujours dans la référence cinématographique. En lisant Blackout, qui se situe pendant les années 30 à 50 dans le Hollywood au plus haut de son pouvoir magique et de sa face cachée, j'ai pensé à Zelig, un film de Woody Allen. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas quoi penser du cas Woody Allen en tant qu'homme. Peut-être qu'il y a des choses contestables, je ne sais pas. Je ne suis pas du côté des juges, je n'ai pas les informations, mais pour moi, ça reste un immense artiste. Et Zelig, c'est l'histoire de ce personnage qui est toujours à côté des personnages importants de l'histoire contemporaine. On le voit avec les hommes politiques, avec les savants, avec les artistes. Et à chaque fois, Zelig, c'est un caméléon qui emprunte l'apparence de ces personnages. C'est celui qui est toujours là sans qu'on le voie. Et c'est un peu ce qui se passe avec Maximus Wilde. Maximus Wilde, c'est à l'origine, c'est un boxeur pauvre qui est repéré dans une salle pendant son entraînement par Cary Grant, donc acteur mythique du Hollywood de ces années-là, qui va lui proposer de faire une apparition sur un plateau pour faire une figure, parce que les studios tournent à tour de bras des sujets dans des genres très différents, où il faut toujours beaucoup de figuration, puis une figuration, alors entre guillemets, j'ouvre plein de guillemets, attention, une figuration ethnique. Et Maximus Wilde, au cours des années 30 à 50, va participer à une flopée de films totalement mythiques, Autant n'emporte le vent, Shangri-La de Frank Capra, Le Faucon Maltais, enfin j'en oublie, j'en passe et bien d'autres, en jouant, alors lui qui est physiquement à la confluence de bien des choses, en fait, clairement il a des traits négroïdes, mais il a des yeux qui font penser aux Asiatiques, il peut tout jouer, quand on dit il peut tout jouer, il va jouer tout, toutes les minorités, tous les représentants des minorités, jusqu'à l'absurde, il peut jouer aussi bien un esclave des champs de coton qu'un indien peau rouge d'Amérique.
Il faut dire qu'à l'époque, on ne se privait pas de grimer et même d'aller plus loin, de grimer donc les acteurs.
Oui, et c'est là qu'on aborde la face cachée de Hollywood. C'est à la fois l'usine à rêve et l'usine à cauchemar, comme je le disais en commençant cette chronique, parce qu'il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un exemple qui est détaillé dans ce récit, c'est celui de Rita Hayworth. Rita Hayworth, c'est une latino, c'est une brune très typée. Hollywood va la transformer. Alors Hollywood avait l'habitude de s'occuper de ses stars, s'occuper entre guillemets là encore, en leur donnant des cours de diction, de chant, de danse, enfin en faire des acteurs et des actrices prêts à tout. Mais aussi, c'était des contrats qui faisaient que les acteurs et actrices appartenaient littéralement au studio, donc ils en faisaient ce qu'ils voulaient, y compris physiquement. Et Rita Hayworth, bon, on va changer la couleur de ses cheveux, ça c'est une chose. On va lui remodeler les sourcils, c'est encore une chose. Mais on va lui arracher les cheveux. Pour dégager son front, on va lui, à la suite d'un procédé d'électrolyse, on va brûler les racines de ses cheveux qui débordent sur son front. On va lui arracher des dents pour qu'elle ait un visage moins poupin.
Là, ça commence à devenir fou quand
ça
même.
Ça commence à devenir de la torture. C'est là que le mot cauchemar me paraît bien adapté. L'intérêt de cet album, qui je le répète, est une fiction. C'est à la fois de raconter la trajectoire d'un acteur qui est à la fois indispensable et méconnu, c'est-à-dire que c'est un acteur qui, par sa beauté physique extraordinaire, magnétise le regard des acteurs, des actrices, des patrons de studio. C'est un objet sexuel. Il attise le désir, l'envie, il rend littéralement fou les gens qui le voient. Il va être, de la distribution de nombreux films totalement mythiques. Mais soit ces scènes sont coupées au montage, soit il disparaît dans la foule, soit le film est remonté et il ne sera que sur les roches, c'est-à-dire pas sur les bobines conservées, ce qui fait qu'il est à la fois là et pas là.
À la fois indispensable et invisible, en fait.
Ouais, et c'est donc une fiction, et c'est en même temps, au fil de pages qui s'intercalent à intervalles réguliers au fil de récit, un ouvrage didactique sur la représentation des minorités en général dans le spectacle. Que ce soit dans la comédie musicale, dans le burlesque, dans les shows de Broadway, dans les théâtres de musicals du début du siècle, jusqu'à évidemment au cinéma. Alors, c'est des questions très actuelles. J'ai conscience d'ouvrir une porte sur un domaine fortement agité, qui prête à polémique. Ça parle de choses qui font débat aujourd'hui, c'est-à-dire, je cherche une façon de le dire qui fasse la part des choses. Est-ce que en imposant des systèmes de quotas, en posant la question de la représentation, est-ce qu'on n'instaure pas, alors c'est ce que disent certains, une forme de racisme à l'envers? Est-ce que cette bienveillance, en fait, c'est une forme de néocolonialisme? Je pose la question, hein, c'est pas une affirmation de ma part, parce que je serais bien en peine de trancher.
En tout cas, cette réflexion apparaît au travers de cet album.
Voilà.
Et ce qui est intéressant aussi, Thierry, je ne crois pas que vous l'ayez mentionné, c'est le point de départ pour la scénariste de cette histoire.
C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais le point de départ, l'idée du scénario, elle vient en fait d'un portrait de son grand-père. La scénariste est d'origine asiatique et son grand-père a des traits asiatiques. Et en même temps, quand elle regarde une photo, elle se dit « mais il a des traits vaguement négroïdes, il pourrait représenter un Afro-Américain. »
Il pourrait être Maximus Wilde.
Voilà, en fait c'est ça. Maximus Wilde, c'est très lointainement le grand-père de la scénariste. Ça a été le détonateur pour ce projet.
Et du coup, ces questions, ce sont des questions que Lo Yifang s'est posées, je pense, pour elle-même par rapport à ses origines.
J'en suis persuadé, oui.
Et qu'elle ancre dans la réalité qui est toujours celle d'aujourd'hui.
Oui, c'est en cela que cet ouvrage est intéressant. Il est à la fois très daté au sens propre du terme. Le récit est jalonné par les films que tout le monde connaît. Il est daté parce que la chute de Maximus Wilde va être totale quand il va être convoqué devant la commission des activités anti-américaines du sénateur McCarthy.
Parce qu'il va être accusé de communisme en plus.
Voilà, mais à l'époque, avoir un voisin de palier qui critique le gouvernement, c'est être communiste. Et là, sa chute est totale, c'est-à-dire qu'il va disparaître totalement des écrans, non seulement parce qu'on coupe ses scènes, mais parce qu'on ne l'emploie plus, ou alors sous forme de vagues silhouettes masquées. Maximus Wilde disparaît, jusqu'à ce qu'on puisse se demander est-ce qu'il a vraiment existé. Ironie du scénariste, de la scénariste en l'occurrence, ironie des auteurs. Voilà, c'est un album qui, comme je le disais, restitue une époque, vraiment la face cachée d'un paradis artificiel, et en même temps amène à se poser des questions très très actuelles qui feront encore débat pendant très longtemps.
Et du coup, cette question de l'existence ou de la non-existence rend particulièrement, j'allais dire savoureux, c'est peut-être pas le mot, mais enfin donne toute son ampleur à ce livre.
Oui, et puis il y a une anecdote qui me revient, qui est évoquée d'ailleurs dans ce livre, c'est « Autant n'importe le vent ». Alors je ne sais pas où on en est, point de vue visibilité du film sur Netflix ou sur d'autres plateformes, etc. Les Noirs qui sont montrés, qui sont domestiques, jouissent d'un statut privilégié entre guillemets. C'est pas les esclaves des champs de coton. Mais alors, est-ce que c'est pas une forme justement de racisme? L'actrice qui joue la Mlle Scarlett Polly Rideau, la nounou de Scarlett O'Hara, elle a été la première actrice noire à recevoir un Oscar. Alors, est-ce que c'est une façon pour les blancs bien pensants de se dédouaner de cette forme de racisme à l'envers qu'on dénonce aujourd'hui pour bien des choses? C'est une question qui est posée au fil du récit, et c'est une question qu'on peut se poser, mais que je laisse le soin de se poser à chaque auditeur, sachant que son avis sera éclairé par cet album qui, je le répète, est très complet et très original dans sa façon de décrire. Un autre paradoxe, c'est que Hollywood Machine à rêve a été décrit comme un lieu d'orgie, de stupre, le temple de la luxure par les ligues de bienséance, les ligues de vertu. Et en fait, elles avaient raison. Parce que ce qu'on y voit, c'est vraiment Babylone. Et c'est aussi ce que nous montre Maximus Wells, sans volonté de jugement de ma part, mais c'est une réalité. Une autre anecdote pour finir, je parlais de Cary Grant qui découvre Maximus Wells au début. Cary Grant, c'était l'incarnation du séducteur hétérosexuel. Et en fait, pendant des années, il a partagé une villa avec l'acteur Randolph Scott. Et ça paraissait très normal.
Tout ça risque de nous donner peu envie de lire cet ouvrage, en fait, au bout du compte, avec ce déferlement-là. Mais ce que ce récit nous présente, c'est la problématique du respect entre les êtres humains. Est-ce que nos relations sont faites de condescendance ou véritablement de prise en considération de l'autre? Ça, c'est, j'ai l'impression, à travers de cet album, une des questions que l'on peut approfondir. Voilà, donc nous vous conseillons par conséquent, effectivement, la lecture de Blackout, avec au scénario Lo Huifan, et au dessin Hugues Micolle. C'est une parution Futuropolis. Merci Thierry de nous l'avoir présenté, puis nous resterons chez Futuro la semaine prochaine pour un autre ouvrage très intéressant. À bientôt.